15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Depuis lundi, vous l'avez compris, nous nous mobilisons et nous adaptons notre antenne, évidemment, à l'actualité, à cette guerre contre l'épidémie de coronavirus en France. Alors pour prendre soin de vous et répondre à vos questions, il est à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Oh là là, vous êtes très fort dans mes oreilles, hein. Mais bon, c'est parce que vous êtes loin, alors je sais pas, réglez bien votre micro, vous m'avez cassé les oreilles. Comment allez-vous?
Bah écoutez, ça va, on continue les visites tous les jours auprès des malades, on voit de plus en plus de cas, et donc, encore une fois, il faudrait que les gens restent chez soi, puisque le virus, comme on le dit souvent, ne circule pas, c'est nous qui faisons circuler le virus. Donc vraiment, la consigne qu'on demande pour aider les soignants, c'est de rester le plus possible à la maison pour qu'on puisse absorber cette vague qui s'annonce un peu compliquée à l'hôpital.
Très bien, ce message y va passer tout au long de l'émission. Alors au programme aujourd'hui, nous allons bien sûr tenter de vous éclairer, de répondre à toutes vos interrogations. Pour ce faire, nous aurons bien évidemment des experts en ligne tout au long de l'émission. D'abord le professeur Karine Lacombe, chef du service infectiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Avec elle, nous ferons un point sur la situation actuelle, sur l'évolution de l'épidémie en France. Cette infectiologue répondra aussi à des questions très pratiques que vous vous posez sur la transmission du virus. Certains s'étonnent par exemple qu'on ne désinfecte pas nos rues en France, contrairement à d'autres pays. Elle nous dira pourquoi cette mesure n'a pas été retenue ici en France. Nous interrogerons aussi le diabétologue Boris Ancel. Les patients diabétiques sont particulièrement vulnérables face au coronavirus. Donc un service en ligne d'information et de suivi est lancé aujourd'hui. Il va nous expliquer comment ça marche pour guider ces patients fragiles. Ensuite, le président de la Ligue contre le cancer, le professeur Axel Kahn, répondra aussi à vos questions. Quels sont les risques vis-à-vis de ce virus pour les personnes actuellement en traitement contre un cancer ? La continuité de leurs soins est-elle assurée dans de bonnes conditions? Il nous dira tout. Et enfin, pour Catherine Blanc, qui va nous rejoindre pour terminer cette émission, notre psychanalyste maison, il s'agira de nous parler de cette épreuve du confinement quand on est avec des ados à la maison. Pas facile de leur faire comprendre qu'il faut rester ici, que ce n'est pas une punition. Elle va nous donner tous ses bons conseils.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour, professeur Karine Lacombe.
Oui, bonjour.
Alors, je m'appelle. Vous, vous êtes chef du service d'infectiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. D'abord, comment ça se passe très concrètement chez vous, dans votre service? On tient le coup à ce stade?
Alors, oui, effectivement. Donc, nous, à l'hôpital Saint-Antoine, nous ne sommes pas un établissement de référence. Vous savez, il y en a deux à Paris qui sont l'hôpital Bichat et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui sont sur le pont depuis à peu près un mois, hein, puisqu'il a été décidé à Paris de réunir dans ces deux établissements toutes les personnes qui étaient porteuses du virus, de façon à minimiser le nombre d'endroits à l'hôpital où il pouvait y avoir des personnes atteintes. En revanche, nous sommes en deuxième ligne, c'est-à-dire que arrivent dans notre service par les urgences des personnes qui sont suspectent d'être infectés, et une fois qu'on a confirmé l'infection, on les transfère dans l'un de ces deux centres. Oui. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis une semaine, le nombre de personnes suspectes, en particulier avec des signes respiratoires, est en très grande augmentation. Donc on pense vraiment que dans les jours à venir, on va arriver à entrer en pleine bourrasque.
Ouais. Et hier, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a précisé que désormais, donc, on a plus de 9000 cas confirmés. Je crois qu'il y a plus de 900 personnes qui sont en réanimation. Alors, le nombre de cas à présent, apparemment, il double tous les jours, ce qui était le cas avant tous les deux ou trois jours. C'est quand même très inquiétant. Ça veut dire qu'on ne sent pas du tout encore, c'est normal, ça fait pas très longtemps qu'on est confiné, mais les effets du confinement ne sont toujours pas là, hein.
Ah ben non, bien sûr, les effets du confinement, on va les sentir d'ici 15 jours à 3 semaines. Mais là, ça fait que 2-3 jours qu'on est en confinement. Donc non, évidemment, on ne les sent pas encore, puisque le confinement a démarré alors que déjà beaucoup, beaucoup de personnes étaient infectées. Donc les personnes que l'on dépiste actuellement, c'est des personnes qui ont été infectées avant le confinement.
Bien sûr. Jimmy, pardon.
Il y a des personnes justement qui ont décidé de partir de la ville vers leur maison secondaire à la campagne. Est-ce que c'était une mauvaise idée? Le risque étant finalement qu'ils transportent leur virus dans des zones qui étaient jusque-là épargnées, non?
Ah bah oui, je pense que c'est une très mauvaise idée. Enfin, on l'a dit massivement ce week-end, mais on n'a pas été beaucoup entendu. C'est vrai que cet exode massif de personnes a probablement entraîné un exode massif de virus. Et je pense que se retrouver malade, infecté chez soi, dans sa maison de campagne, dans un endroit où les besoins sanitaires n'ont pas été imaginés pour correspondre à la à la taille de la population qui a migré dans ces zones-là, ben, peut faire en sorte de mettre à difficulté le système sanitaire. Donc je pense que c'est pas une attitude très citoyenne.
Bon, il y en a quand même pas mal qui l'ont déjà fait, qui sont partis se confiner dans un environnement plus agréable selon eux. Quelles sont les règles, en tout cas, absolues à respecter pour eux, qu'ils soient à la campagne ou ici? Ce sont les mêmes règles, on est d'accord? On fait pas des barbecues entre voisins ou je ne sais quoi. Hein, ouais.
Exactement, c'est exactement les mêmes règles. C'est-à-dire qu'on est chez soi, on n'en sort pas, sauf pour les fonctions vitales dont le gouvernement a parlé, hein, qui est aller faire ses courses pas plus d'une fois par jour, aller chez le pharmacien, aller chez le médecin s'il y a besoin, et puis une petite activité physique à côté de chez soi en solitaire, je le rappelle. Donc effectivement, bah voilà, on peut se confiner chez soi de cette façon-là, mais évidemment, il ne faut pas aller dans de la famille, pas recevoir des amis, pas aller se promener sur la plage, même si on va se promener seul, parce que en fait, l'intérêt du confinement, c'est de passer de 20 à 30 voire 50 contacts quotidiens qu'on a habituellement à moins de 5. Et même avec une distance de 1 mètre, avoir 10 ou 15 contacts, comme quand on va à la plage, on sort chez soi, on va dans la rue, etc., on arrive à la plage, on a croisé plus de 15 personnes. Puis il faut savoir que dans les zones rurales, il peut y avoir pas mal de vent, en particulier à la mer, et on voit bien que les gouttelettes que l'on peut émettre quand on a beaucoup de virus, elles peuvent être portées plus loin que 1 mètre par le vent. On
sent avec les emprunts, par exemple. Ville, ça va à peu près, mais à la campagne, effectivement,
exactement,
ça peut être finalement...
Ça n'a rien avec à voir.
Ouais, d'accord. Donc on sait on a pu se protéger en partant là-bas, mais il faut garder les mêmes règles de précaution. Hein,
exactement.
C'est ça.
Merci beaucoup. Pour alors après, je comprends que ce soit plus agréable d'être confiné dans une maison de 100 mètres carrés qu'un appartement de 30 mètres carrés, on est d'accord. Ne pas oublier aussi de bien ventiler les surfaces dans lesquelles on habite, ouvrir souvent les fenêtres pour renouveler l'air.
Merci professeur Karine Lacombe, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient avec évidemment une émission entièrement consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus. Avec nous pour vous répondre et vous faire part de l'évolution de la situation, une infectiologue est en ligne. Nous ferons aussi un point tout à l'heure sur le risque pour les patients diabétiques ou atteints d'un cancer. À présent, on se détend avec un peu de musique. Je vous propose d'écouter la jeune chanteuse britannique Céleste. Ça s'appelle Stop This Flame.
But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop.
If you can't withstand my love, keep.
C'était la jeune chanteuse britannique Céleste avec son titre sorti cette année, Stop This Flame.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec une émission évidemment aujourd'hui toujours consacrée aux questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous interroger. Ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. À mes côtés pour vous répondre, le docteur Jimmy Mohamed et des experts. Alors justement, elle est toujours avec nous en ligne. Le professeur Karine Lacombe, vous êtes chef du service d'infectiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Professeur Lacombe, on va tout de suite écouter une question d'auditeur. On en a beaucoup. Là, je vous propose d'écouter celle d'Hugo.
Oui. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Donc, j'avais une petite question. Après une contamination du coronavirus, est-ce que des séquelles pourraient être présentes? Voilà, merci, bonne journée.
Professeur Lacombe, pour ceux qui ont guéri, heureusement, il y en a déjà beaucoup quand même qui ont guéri. Est-ce qu'on a des séquelles?
Alors, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, cette épidémie nous fait découvrir plein de choses et particulièrement le fait qu'au-delà des symptômes respiratoires ou ORL qu'on décrit classiquement avec les virus respiratoires, on a vu apparaître des symptômes un peu particuliers mais qui, a priori, disparaissent dans le temps. Donc, ce type de symptômes, c'est ce qu'on appelle l'anosmie. Alors, l'anosmie, c'est un terme un peu scientifique pour décrire la perte du goût. Donc, on a constaté que beaucoup de personnes qui ont été infectées, eh bien, perdent temporairement le goût. Il y a même certaines personnes qui n'ont que cette manifestation clinique de l'infection à coronavirus.
C'est très particulier.
Voilà, juste une perte de goût brutale. Alors, c'est pas classique de perdre le goût. On connaissait déjà ce phénomène avec d'autres maladies. Là, c'est complètement transitoire a priori, mais ça peut quand même durer plusieurs jours. Donc, la perte du goût. Et puis, il semblerait qu'il y ait aussi un autre événement, là aussi un peu inattendu, c'est des phénomènes d'allergie, en particulier des crises d'urticaire. Donc, on voit bien qu'on est un petit peu éloigné des signes respiratoires ou ORL classiques qu'on décrit, là. C'est pas de la rhinite, de l'angite, de la pharyngite ou de l'infection des poumons. Mais voilà, c'est des petits signes qui sont un peu différents, très différents de ce qu'on s'attendait. Alors, sans gravité et a priori, ces signes-là disparaissent quand on guérit de la maladie.
D'accord. Jimmy Mohamed?
C'est vrai qu'on sait que les services hospitaliers sont saturés, on a de plus en plus de cas, il va y en avoir de plus en plus, mais comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a une personne qui a risque de complications, notamment une personne fragile ou une personne âgée qui développe des symptômes, qui à ce stade n'a pas de critères d'urgence? Est-ce qu'on doit la faire hospitaliser ou finalement on attend un petit peu que ça se dégrade en attendant de voir comment ça évolue?
Alors non, on ne l'hospitalise pas, mais on a mis en place un système d'intelligence artificielle qui s'appelle le Covidome.
Bonjour Mélanie, bonjour.
Le Covidome qui peut être rempli par des médecins généralistes ou des médecins hospitaliers permet de suivre à distance des personnes qui ne nécessitent pas d'être hospitalisées. Donc il y a des alertes par intelligence artificielle et puis derrière ce système, quand on voit une alerte, eh bien, il y a un médecin qui fait partie de la réserve nationale et qui a été mobilisé pour cette application, qui peut appeler la personne pour voir exactement ce qu'il en est et organiser son hospitalisation. Donc ça s'est mis en place sur l'Île-de-France, mais a priori, c'est en train de déployer sous d'autres systèmes reste de la France.
D'accord, c'est très utile effectivement pour pouvoir garder au maximum ceux qu'on peut garder, dont l'État le permet, à domicile. Professeur Lacombe, on a beaucoup de questions d'auditeurs, notamment sur le hashtag Radio Ouverte et au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Des questions très pratiques aussi à laquelle vous pourrez sûrement répondre. On va écouter à présent celle d'Edith.
J'ai 82 ans, en bonne santé, et un problème récent de bronche qui a été traité. J'ai un fils, étant en panne de chauffage, il prend ses douches chez moi deux ou trois fois par semaine. Faut-il éviter de prolonger ses visites? Et d'autre part, au bout de combien de jours de confinement puis-je estimer que je ne suis pas porteuse du virus? Merci pour votre émission. Au revoir.
Professeur Lacombe, qu'est-ce qu'on peut dire à Edith déjà concernant son fils qui vient régulièrement, elle a 80 ans, prendre des douches chez elle? Alors je sais pas.
Je pense que c'est pas une bonne idée en période de confinement. On ne devrait pas accueillir de personnes chez soi.
Surtout quand on a 80 ans passés.
Urgence vitale. Surtout quand on a effectivement 80 ans, non plus de 70 ans, parce qu'on sait que ce sont nos aînés qui sont les plus à risque de faire des complications graves du virus. Donc le fait que son fils vienne régulièrement, ça peut tout à fait être le vecteur du virus. Et le confinement, c'est 14 jours en gros. C'est pendant 14 jours, on n'a pas de symptômes. On peut quasi être sûr qu'on n'a pas qu'on n'a pas attrapé le virus.
Jimmy?
Professeur Lacombe, on a une autre question, celle de Florent, près de Bordeaux. Il nous demande pourquoi certains pays désinfectent même les rues, les métros, à coups de grands jets de pulvérisation de désinfectants, et on ne fait rien du tout, tout ça en France.
Alors ça, c'est une très bonne question. Ben, en fait, ça repose sur aucune base scientifique solide. C'est vrai que nous, en France, quand on prend des décisions, on aime bien que ce soit étayé par la science. Ce qui a été montré, c'est que le virus peut persister de façon plus ou moins prolongée sur des surfaces inertes, par exemple le goudron, le plastique, le béton, etc. En revanche, le virus n'est pas un organisme vivant, au contraire des bactéries. Les bactéries, elles peuvent vivre longtemps sur les surfaces parce qu'elles consomment de l'oxygène, du sucre, etc. Donc elles n'ont pas besoin du corps, et elles prolifèrent, et elles n'ont pas besoin du corps humain pour se multiplier. Alors que le virus, il a besoin de l'appareil enzymatique, c'est-à-dire les protéines du corps humain qui sont contenues dans des cellules, et pour le Covid, dans les cellules respiratoires, pour se multiplier. Donc quand le virus est à l'extérieur, il ne peut plus se multiplier. Donc on pense que ce virus-là n'est pas un virus qui est contagieux. Donc on détecte du virus, c'est sûr, du matériel génétique, mais ça ne veut pas dire que le virus est viable et donc qu'il est contagieux.
Et ça veut dire que du coup, les pays qui font ça, par exemple en Asie, ils font ça pour rien de désinfecter les rues ? C'est-à-dire que, parce que beaucoup de gens se posent la question quand même, pourquoi nous on ne fait pas ça ?
Oui, il n'y a pas de base scientifique. Parce qu'il n'y a pas de base scientifique pour étayer ce type de décision. Autrement, on aurait fait la même chose en France. Mais vous savez, parfois, dans certains pays, il y a des décisions qui sont prises de façon très autoritaire, qui ne reposent pas toujours sur des critères très objectifs. Hein. C'est l'appréciation de chacun. C'est le problème aussi de culture, et etc.
Jimmy ?
Par exemple, si
et
je
puis
peux
c'est vrai que les mesures de...
part d'une anecdote,
oui, allez-y,
anecdote qui pourrait porter à sourire si le contexte n'était pas aussi grave. À Hong Kong, on a montré qu'il y avait des chiens qui avaient du virus. Et donc, il a été procédé à des euthanasies massives d'animaux domestiques à cause de cette découverte. Or, le chien n'est pas du tout un animal dans lequel le virus se multiplie. Il n'y a donc pas de risque de contamination entre le chien et l'homme. Et pourtant, il y a eu des mesures d'euthanasie massives.
Merci beaucoup, professeur Lacombe, d'avoir été avec nous pour répondre aux auditeurs d'Europe 1. On vous laisse repartir sur le terrain auprès de vos patients. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Sans Rendez-vous revient. Nous appellerons le diabétologue Boris Ancel. Les personnes diabétiques sont particulièrement à risque vis-à-vis de ce virus. Il nous expliquera pourquoi. Il nous présentera aussi un service en ligne qui sort aujourd'hui pour guider et informer les diabétiques pendant cette épidémie. Restez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et on accueille par téléphone à présent le docteur Boris Ancel. Vous êtes diabétologue à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour docteur.
Bonjour Mélanie Gomez.
Alors docteur Ancel, d'abord, premier point très important. Les diabétiques font partie des personnes les plus à risque vis-à-vis de ce virus. C'est-à-dire, à quel point, qu'est-ce qu'ils risquent précisément ?
Oui, ça a été précisé par les autorités de santé. On sait que dans les expériences chinoises, les diabétiques n'ont pas plus de risque d'avoir l'infection. En revanche, ils ont plus de risque d'avoir une infection sévère, puisque le risque d'infection sévère et de décès est multiplié par, disons, entre 2 et 3.
Ah oui, quand même, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont plus de risque de quoi ? De finir avec une infection grave qui les conduit, par exemple, en réanimation. Faut quand même rassurer aussi ceux qui nous écoutent.
Ça veut absolument
dire un risque majoré, ça ne veut pas dire que tous les diabétiques qui seront contaminés, c'est ce qui va leur arriver, bien sûr.
Alors d'abord, c'est un risque qui est majoré, ça c'est clair et net pour des risques d'infection sévère. En revanche, ce ne sont pas tous les diabétiques. Vous savez que les diabétiques, c'est 5% de la population. Ce qui est mentionné, c'est que ce sont les diabétiques essentiellement sous insuline et déséquilibrés, donc dont le traitement n'est pas forcément adapté, ou les diabétiques qui ont des comorbidités, des pathologies associées, des complications cardiaques, respiratoires, au niveau de la rétine. Donc la majorité des diabétiques ne sont pas dans cette situation, mais par prudence, on préfère donner un message général que les diabétiques se sentent particulièrement concernés.
Jimmy ?
Et justement, est-ce que vous pouvez rappeler aux gens pourquoi est-ce que les diabétiques font partie des personnes les plus vulnérables ou les plus à risque ? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète un peu plus pour elles par rapport aux autres ?
Alors, on ne sait pas tout sur ce sujet. On peut dire simplement que le diabète, en particulier déséquilibré, est associé à une baisse des défenses immunitaires. La deuxième chose, c'est que les diabétiques anciens, donc souvent déjà sous insuline parce que la maladie a évolué, ce sont des gens qui ont aussi d'autres fragilités, des fragilités cardiaques, des fragilités au niveau des petits nerfs, donc des risques infectieux. Donc, un ensemble de choses.
Un organisme qui est plus fragile, quoi, en comprenant.
Un organisme qui est plus fragile, et encore une fois, et encore une fois, c'est surtout vrai pour des diabétiques qui sont avancés, des diabètes qui sont, qui ont plusieurs années.
Et docteur Ancel, je crois que si on est diabétique et en plus en surpoids, voire même qu'on souffre d'obésité, le risque vis-à-vis du coronavirus, il est encore plus élevé, hein.
Oui, alors on n'a pas les chiffres précis, mais ce qui est vrai, c'est que l'obésité massive est un facteur de risque à lui seul. Les personnes qui ont une obésité avec un indice de masse corporelle très élevé ont eux aussi une augmentation du risque. Donc, il est clair que si on est et diabétique et en situation d'obésité sévère, ça augmente encore le risque. Mais dans tous les cas, ce qu'on veut vraiment faire passer comme message, c'est que c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on va forcément tomber gravement malade du coronavirus. Et deuxièmement, que les mesures de prévention pour la population sont les mêmes qu'il faut appliquer chez les diabétiques, avec un peu plus encore de vigilance. Et une chose particulière, si vous me permettez, qu'on n'a pas assez dit, que le Haut Conseil de la Santé publique a clairement mentionné, c'est la vaccination contre le pneumocoque. Il y a une indication à être vacciné contre le pneumocoque, indépendamment du coronavirus, pour les personnes diabétiques. Et le Haut Conseil de la Santé publique a dit que si on n'a pas été vacciné, il faut se faire vacciner.
D'accord. Jimmy Mohamed ?
Alors justement, pour les aider, ces Français atteints de diabète, aujourd'hui, un service en ligne est lancé pour les informer et les aider. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? C'est une application, un site internet ?
Oui, alors c'est un projet collaboratif qui est mené par la Fédération des services de diabétologie coordonnée par le professeur Roussel, des équipes INSER, l'Université de Paris, donc beaucoup de structures qui se sont rassemblées très rapidement. Le but, c'est quoi ? C'est de fournir, une information fiable en temps réel à tous ces patients fragiles diabétiques qui se posent des questions. Deuxièmement, de les accompagner dans cette période difficile d'épidémie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les accompagner ? Ça veut dire les aider
ça
à trouver...
Ça s'appelle comment, quand même, ce site juste donné ?
Ça s'appelle Covidiab, ça va pas
donc,
vous surprendre.
www.covidiab, covidiab.fr, hein, c'est ça?
Absolument, covidiab.fr, et donc sur ce site, on a de l'information. On peut s'inscrire quand on est patient, ou si on est soignant, on peut demander à rejoindre les équipes pour pouvoir participer au suivi de ses propres patients. Mais si vous êtes patient, vous pouvez vous-même vous inscrire et vous recevrez en temps réel de l'information fiable. Et vous aurez un accompagnement personnalisé pour
J'allais
vous orienter.
De l'information, mais derrière le fil, entre guillemets, derrière le téléphone, il y a qui nous répond, des diabétologues?
Alors, derrière le fil, il y a des équipes soignantes qui vont surveiller et vérifier que tout se passe bien et qui vont envoyer en temps réel des annonces, des informations en fonction des actualités. Ce qui n'est plus avéré parce que les connaissances évoluent sera enlevé et ce qui est nouveau sera mis en ligne. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur le net, vous trouvez des infos en tous les sens, des infos anciennes, des infos nouvelles, et finalement les patients nous disent, nous on ne sait plus à quoi se fier. Donc là, on s'adresse vraiment à cette population diabétique qui est fragile, et ils vont recevoir ces informations, et ils vont être orientés vers les bonnes structures si ils ne se sentent pas bien, s'ils ont des questions. Et je voudrais insister sur l'importance de cette fiabilité. Vous savez à quel point ça nous est cher, et cette application est également en collaboration avec notre chaîne YouTube PUMS, pour une meilleure santé, qui existe depuis plusieurs mois, et là évidemment avec des programmes qui sont ciblés sur le coronavirus, les risques, les conseils pour fournir de l'info 100% fiable.
Jimmy, une dernière question ?
Et ce service, il est gratuit, il est proposé pour tout le monde et on n'a rien à payer ?
Il est absolument gratuit et il est proposé à tous les résidents français de métropole et d'outre-mer, donc il suffit vraiment de s'inscrire, comme vous avez dit, covidiab.fr. Et de suivre l'inscription, les renseignements bien sûr sont sécurisés, tout ce qui est fourni suit les règles de bonne pratique dans les services de e-santé, de santé connectée.
Merci beaucoup docteur Boris Ancel d'avoir été notre invité, le message est passé. Donc pour les diabétiques, toute l'information vérifiée et fiable, ça se passe au www.covidiab.fr. Merci encore.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, nous allons prendre en ligne le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, car eux aussi, les patients actuellement sous traitement contre un cancer, ils s'inquiètent notamment de la continuité de leur traitement en cette période d'épidémie. On a reçu pas mal de questions à ce sujet. Le professeur Axel Kahn va nous aider à vous répondre, bien sûr, mais d'abord un peu de musique sur Europe 1. C'est la chanteuse Jeanne Chéral, ça s'appelle L'An 40.
D'où vient cette lumière au-dessus d'elle et ce pas de louve caressante? Ces hanches qui roulent, facile, naturel, y a-t-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste l'an 40. On dirait quelquefois qu'elle a des ailes, ou comme une audace l'insolente. Un avis nouveau, une envie nouvelle, elle en deviendrait fatigante. Ce n'est rien de plus que l'an 40. Elle est un peu cabri, un peu et brûle d'amour du cœur au ventre. Cette eau qui bouillonne, où la puise-t-elle? Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle entre avec le sourire en l'an 40. Quelques années, quelques séquelles, quand elle sera sur d'autres pentes, en pleine sagesse, du moins le croit-elle, pour accompagner la descente, elle se souviendra de l'an 40.
C'était donc la chanteuse Jeanne Chéral avec son morceau sorti l'an dernier, c'était l'an 40.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé, émission qui s'adapte évidemment. Nous sommes tous les deux désormais en télétravail, vous l'aurez compris, on reste mobilisés pour vous informer, mais de chez nous. Alors à présent, on accueille donc le président de la Ligue contre le cancer, le professeur Axel Kahn. Bonjour professeur.
Bonjour Mélanie Gomez, comment allez-vous?
Bah écoutez, très bien, la dernière fois que vous étiez venu, on n'était pas dans cette situation-là. Aujourd'hui, on a d'autant plus, encore plus de questions pour vous. On en a reçu beaucoup, des questions de patients atteints par un cancer ou de leurs proches qui sont complètement affolés par cette épidémie, surtout depuis le confinement. Vous, à la Ligue, vous êtes préparé à répondre à leurs questions, je crois, déjà depuis plusieurs semaines, en fait, hein.
En effet, je fais partie de ceux qui avaient une vraiment grande expérience des épidémies. J'étais, quand j'avais 23-24 ans, médecin-chef d'une grande préfecture en Afrique, en Centrafrique, et j'ai vu plusieurs épidémies, et j'en connais très bien le génie. Et en plus, j'ai été le rédacteur en chef et créateur, d'ailleurs, d'une importante revue biomédicale internationale. Et évidemment, j'ai suivi tous les problèmes de santé mondiaux à ce propos. Et donc, il n'y avait strictement aucun doute pour moi que nous serions concernés, et la cinétique de l'épidémie ne m'était pas inconnue. Ce qui m'a permis de mettre la Ligue nationale contre le cancer totalement en ordre de marche, elle n'a pas du tout été prise au dépourvu.
Très bien. Jimmy ?
On a plus de 9000 cas en France, professeur Kahn, plus de 200 décès à ce stade.
On a beaucoup plus que de 9000 cas en réalité. On a beaucoup plus.
Oui, exactement, les cas qu'on a testés. Mais est-ce qu'on sait parmi justement les patients qui sont...
Des cas cliniques sévères.
Exactement. Mais est-ce qu'on sait parmi les personnes qui sont décédées s'il y a une surreprésentation des patients atteints par un cancer ou pas?
Oui, on a les données. Il n'y a pas de doute que les personnes qui sont en traitement pour cancer sont en en danger et qu'il s'agit d'une population à risque. Il y a des publications qui commencent à s'accumuler. Elles viennent au départ de Chine. Elles viennent également maintenant d'autres pays. Le fait d'être soumis à une chimiothérapie, surtout évidemment les chimiothérapies qui diminuent l'immunité, c'est-à-dire les défenses naturelles contre notamment les agents infectieux, c'est un facteur important de risque, de même que l'affaiblissement de l'état général. Et il faut absolument que les personnes malades dans cette situation soient, comme tout le monde, confinées, mais encore plus que tout le monde, en faisant encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attention.
Ouais. Alors justement, professeur Kahn, je vous disais, on a reçu beaucoup de questions, notamment celle d'Aurélie au 3921. On va l'écouter tout de suite.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai une petite question pour vous, parce que actuellement je suis en chimio car j'ai un cancer du sein triple négatif et mes médecins m'ont dit de ne pas arrêter mon traitement, mais j'ai vraiment peur quand je me rends à l'hôpital avec le contexte actuel. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Professeur Kahn, qu'est-ce qu'on peut dire à Aurélie ?
Les consignes vont changer. À l'heure actuelle, il y a une grande discussion entre tous les professionnels et suivant les cas, naturellement, il faut traiter les questions au cas par cas. On va considérer que différer les chimiothérapies est moins risqué, en effet, souvent, que de faire venir des personnes fragiles en des zones dont on ne peut pas garantir qu'elles soient indemnes du coronavirus, du Covid-19. Et il y a plusieurs solutions. Soit on décale la chimiothérapie, soit on met en place des systèmes de chimiothérapie à domicile, c'est également possible, mais il va y avoir, par rapport à ce que l'on a dit sans doute il y a quelques jours à cette malade, il va y avoir de nouvelles indications, de nouvelles consignes.
Jimmy ?
Justement, vu ce que vous nous annoncez, ça veut donc dire que sur le plan national, dans les centres de cancérologie, il n'y a pas eu de mesures plus drastiques qui ont été mises en place, pas d'éléments de sécurité supplémentaires pouvant assurer finalement la sécurité des patients ?
Si, je crois que les mesures qui sont mises en place dans les centres de traitement qui reçoivent des malades fragilisés, notamment pour radiothérapie, chimiothérapie, sont des mesures d'un haut niveau de sécurité. Mais
déjà
il n'empêche,
départ, en fait.
Vous savez bien, aujourd'hui, vu le nombre considérable de malades infectés qui vont dans les hôpitaux, lorsque le centre de traitement est proche des hôpitaux, on ne peut pas totalement garantir que le risque d'être en contact avec une personne qui, sans le savoir, est elle-même contaminée, soit totalement nulle. Il n'est pas nul, en réalité. Et donc, il faut trouver le meilleur compromis. C'est quoi le meilleur compromis ? C'est ne pas faire perdre de chance aux malades atteints de cancer, et par conséquent, prévoir évidemment la suite du traitement, mais ne pas faire courir de risques inconsidérés de deux ordres. Le premier ordre, c'est évidemment celui de la fragilité à l'infection, et le deuxième ordre, c'est que on sait très bien aujourd'hui que, compte tenu de cette fragilité, les formes graves y sont plus fréquentes.
Bien sûr. Vous avez dit que le principal risque, c'était pour les patients en chimio, donc qui ont une immunité réduite. Par exemple, on a reçu des patients aussi qui sont en radiothérapie, qui font donc des séances de rayons parfois tous les jours. Pour ces gens-là, le risque, il est aussi important, ou c'est vraiment plutôt...
Alors, surtout je ne vais pas le quantifier.
Ouais.
Je ne vais pas le quantifier, mais je vais dire que, sans doute, la radiothérapie doit être considérée comme pouvant également affaiblir les défenses immunitaires.
Et certains qui sont justement en radiothérapie, on a eu des questions sur le hashtag Radio Ouverte qui demandent « Je me rends à mes séances de rayons en transport en commun, c'est encore ouvert, est-ce que c'est raisonnable ?»
C'est totalement déraisonnable. Ça, c'est totalement déraisonnable.
Alors,
il faut d'abord que tout se fasse en conjonction avec les médecins traitants, avec surtout les médecins, l'équipe soignante qui soigne le cancer. Hein. Je ne remplace absolument pas l'équipe soignante qui s'occupe du cancer. Mais... d'un point de vue général, pour ce qui est des transports, personne d'ailleurs, progressivement, de moins en moins de personnes ne devraient prendre de transports en commun, mais les malades qui ont une fragilité, prendre des transports en commun est totalement exclu. Ça, c'est pas possible. Et si jamais, si les traitements sont poursuivis parce que on est vraiment dans une zone où il n'y a pas de risque, une zone géographique ou bien un lieu de radiothérapie qui est pas exactement dans l'hôpital qui reçoit les malades infectieux, en tout cas, ce doit être une ambulance ou un véhicule sanitaire léger qui assure un transport individuel. C'est impératif.
Jimmy ?
On a une autre question de Guillaume, 59 ans, dont l'épouse est en cours de traitement pour un cancer cutané, un mélanome. Il demande sur le hashtag Radio Ouverte si lui, qui sort tous les 3 jours pour faire des courses par exemple, doit porter à la maison un masque et surtout, comment en trouver puisqu'il n'en trouve pas en ce moment.
Alors, à la maison, la réponse est non, à moins qu'il ne vive avec une personne qui se sent patraque et qui pourrait être une personne infectante. Mais ça, il vaut mieux pas. S'il y a une personne infectante à domicile, il vaut mieux malheureusement trouver un moyen de confinement et d'éloignement. S'il sort lui-même, le masque, comme vous le savez, est avant tout protecteur pour ne pas contaminer les autres personnes. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas protecteur pour la personne, mais la protection maximale, c'est pour éviter chez une personne qui peut être elle-même infectée, ne pas le savoir, par exemple un soignant, un dentiste, que sais-je encore, ne pas contaminer les autres. Par conséquent, c'est pas absolument épouvantable s'il sort comme cela sans masque. Maintenant, principe de précaution, dès qu'il y aura suffisamment de masques, honnêtement, je vais vous dire le fond de mon sentiment, c'est que ce sera pas tout à fait illégitime que lui-même demande à en porter pour aller faire ses courses.
Mais dans la mesure où effectivement on en manque pour le moment, les réserver à ceux qui soignent, hein,
pour la raison que vous avez dite. Voilà.
Ceux qui sont en première ligne en tout cas. Des questions concernant les patients les plus fragiles atteints d'un cancer, on en a reçu beaucoup, je vous l'ai dit. On pourra pas répondre à toutes ici, mais je précise que la Ligue contre le cancer justement a un numéro vert, le 0800 940 939. Pour ça, qui c'est qui répond aux patients sur ce numéro? Ils auront qui au téléphone?
Alors, il y a ce numéro-là, et puis il y a également un autre numéro que, si vous voulez bien, je vais vous donner, qui est direct. Ce numéro-là va le renvoyer sur une cellule médicale, et je vais vous dire, c'est un secret en quelque sorte. Le président de la Ligue nationale contre le cancer, moi-même, fait partie du panel de médecins qui répondent. Ce sont 4 médecins cancérologues, absolument. Donc on ne remplace pas les médecins traitants, c'est tout à fait évident. On ne remplace pas les équipes médicales, mais nous écoutons et nous donnons des conseils et nous assurons un soutien médical. On peut nous avoir au 01 53 55 24 45, je répète, 01 53 55 24 45.
Et incroyable, vous risquez de tomber sur le professeur Axel Kahn en plus. Alors, si vous êtes inquiet, je suis sûr qu'il saura vous rassurer. Professeur Axel Kahn, juste pour terminer, de façon générale, votre avis sur ce qu'on vit en ce moment en France. Comment on évite là de tomber tous les uns les autres dans la panique, et surtout, et d'autant plus, les personnes qui vivent avec un cancer actuellement?
Alors, il s'agit d'une épidémie, mais je vous l'avais déjà dit quand j'étais venu vous voir, donc on avait déjà un peu parlé de cela, et je vous avais tenu exactement ces propos. En réalité, il y a des fausses visions. D'abord, certains ont pu dire à un moment donné, oh, vous savez, c'est pas plus grave que la grippe. Si, c'est beaucoup plus grave que la grippe. C'est pas du tout une grippe, c'est une épidémie qui est sérieuse. Maintenant, c'est vrai que dans 85% des cas, il s'agit d'une maladie qui est tout de même un peu cognée, mais qui est bénigne et qui guérit dans, c'est tout à fait réel, dans 98% des cas. Il n'empêche que dans 15% des cas, ce sont des formes plus sévères. Dans 5% des cas, elles amènent à la réanimation et surtout, il s'agit d'une maladie extrêmement infectieuse.
Donc restons chez nous, c'est ça.
Pour tout dire. Voilà, on va s'en sortir. Et le virus lui-même est incapable de lasser ses chaussures pour se promener à travers la France. Pour se promener à travers la France, il faut que ce soit un porteur contaminant qui ait lassé ses chaussures. En d'autres termes, le confinement absolu, s'il est respecté, doit permettre d'arrêter l'épidémie. Mais évidemment, il faut 15 jours d'attente pour attendre les premiers signes.
Merci beaucoup, professeur Axel Kahn, d'avoir été avec nous pour rassurer les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission santé revient, des questions médicales et du quotidien même sur le coronavirus. Vous nous en avez laissé beaucoup aujourd'hui. On y répond dans quelques minutes avec le docteur Jimmy Mohamed. Restez avec nous sur Europe 1. Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, on reçoit toujours beaucoup de questions. On va essayer là d'en prendre quelques-unes un peu en vrac pendant quelques minutes. D'abord Jimmy, on va écouter celle de Barbara.
Je voudrais savoir si par rapport au virus n'ayant plus de gel, est-ce que l'eau de Javel peut faire également son travail, enfin, de désinfectant. Voilà. Merci bien. À très bientôt. Au revoir.
Bon, alors là, Javel, Jimmy, c'est un super désinfectant, certes, mais pas pour les mains, je crois, d'abord, qu'on est d'accord, hein, là-dessus.
Oui, effectivement, et en plus, il n'y a pas de questions stupides. Désormais, toute question est bonne à prendre. Et même l'eau de Javel, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Alors, c'est vrai que si vous n'avez plus de solution hydroalcoolique, l'eau de Javel, ça peut marcher, mais vous risquez de vous brûler les mains. Le risque est très important. En revanche, si vous êtes dans une situation où vous êtes dehors, vous n'avez pas de gel et vous devez absolument vous désinfecter les mains, de l'alcool à 70 degrés peut faire l'affaire, mais de façon ponctuelle, le risque, évidemment, c'est de l'irritation. Donc, on peut le faire, mais c'est déconseillé et c'est en dernier recours. Normalement, aucune situation ne devrait recourir à l'eau de Javel.
Oui, surtout sur les mains, parce que les mains, on rappelle, c'est notre peau, c'est une protection aussi, c'est une barrière pour nous contre les virus. Il faudrait pas l'abîmer, la léser, cette barrière cutanée, hein.
Exactement, le virus ne pénètre pas à travers la peau, il va aller au travers des muqueuses. Lorsque vous allez avoir les mains sales, que vous allez mettre vos mains à la bouche ou sur votre nez ou au niveau de vos yeux en vous frottant les yeux, c'est là que vous allez être contaminé. La peau est une barrière qui sert à nous protéger, le virus n'y pénètre pas.
Et il y a des choses qui peuvent, alors vous avez dit le gel hydroalcoolique bien sûr, surtout à la maison, bon, pour les mains c'est le savon et l'eau. Est-ce qu'on nous a demandé aussi sur le hashtag Radio Verte si le produit pour laver la vaisselle pouvait faire l'affaire? J'imagine que oui, mais bon après...
Oui, effectivement, ouais. Alors c'est vrai qu'on est dans une période de pénurie, si vous n'avez plus du tout de savon et que vous devez aller au supermarché, c'est peut-être pas nécessaire de faire ce déplacement juste pour acheter du savon. Le produit pour la vaisselle, pour laver la vaisselle peut faire l'affaire. On a parlé aussi d'autres désinfectants, mais bon, on espère quand même que les gens ont un peu de réserve pour garder de l'eau et du savon qui doit être la référence à la maison. Les solutions hydroalcooliques ne servent strictement à rien. Vous devez les réserver de façon ponctuelle lorsque vous sortez dehors. Et n'oubliez pas, au bout de 5-6 utilisations de solutions hydroalcooliques, eh bien, il faut vous relaver les mains. Des mains souillées, les solutions ne marchent pas sur des mains souillées.
Très bien. Et je reviens juste sur la Javel pour répondre un tout petit peu, compléter sur la question de Barbara. La Javel, par contre, pour désinfecter chez soi, si on a quelqu'un de malade, justement, avec des symptômes potentiels de Covid-19, là, c'est pas mal pour les surfaces, pour nettoyer, diluer dans de l'eau, hein, par contre, c'est ça?
Oui, exactement. Elle est souvent, de toute façon, un petit peu diluée. Alors, c'est vrai, pour nettoyer le sol, les sanitaires, les toilettes. N'oubliez pas les poignées de porte, celles qu'on va toucher et qu'on va parfois négliger. N'oubliez pas aussi, lorsque vous avez une personne malade à la maison, que les draps doivent être nettoyés à 60 degrés durant au moins 30 minutes. On déconseille de les secouer de façon importante à la maison parce que vous allez disséminer des particules. Même chose, c'est la Société canadienne d'hygiène qui recommande d'éviter de passer l'aspirateur, plutôt le balai, pour éviter de balancer des particules en suspension. Bref, l'hygiène est quand même nécessaire à la maison, mais encore une fois, restez chez vous, ce sera la meilleure des mesures.
Jimmy, alors on va prendre une autre question que nous a laissée Esther au 3921. On l'appelle d'ailleurs, c'est un numéro de surtaxé, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Donc on écoute Esther.
Bonjour, Esther Gamasny. Ma question, faut-il laver les fruits tels que les oranges, les clémentines quand on les achète au supermarché ou au marché? Merci pour la réponse, au revoir.
Jimmy, alors est-ce qu'on lave les fruits et légumes, les carottes et les pommes qu'on ramène du marché?
Alors, normalement, il n'y a pas de contamination au travers des aliments. En revanche, en cette période où il y a une épidémie, tout le monde est potentiellement malade. Et lorsqu'on va au supermarché ou même au marché, vous avez forcément quelqu'un qui a trifouillé, qui a touché les fraises, les bananes, qui a touché aux asperges. Et là, à ce moment-là, le risque est que un peu de particules soient mises dessus. Vous touchez par la suite les légumes ou les fruits et vous mettez votre main à la bouche et c'est là que vous allez tomber malade. Donc, d'une façon générale, on épluche les légumes.
Il n'y a pas de transmission digestive, hein, on est d'accord. Mais
normalement, il n'y a pas de transmission digestive.
En masticant, on peut aspirer un peu d'air qui peut, mais bon. De toute façon, voilà. On lave les choses quand on revient du marché parce qu'en
Exactement.
Général, il y a de la terre dessus. Hein.
Exactement, on les lave, on les épluche, on les fait cuire. Le virus ne survit pas à la cuisson, mais le risque étant essentiellement surtout que quelqu'un avec les mains sales touche le fruit, que vous touchez ensuite et que vous mettez votre main à la bouche. C'est pas l'aliment en tant que tel qui va vous contaminer, donc on renforce malgré tout en cette période les mesures d'hygiène et donc on lave à l'eau abondamment les fruits ou on les épluche si on peut, s'ils sont épluchables.
Pour terminer, peut-être une dernière petite question sur le hashtag Radio Ouverte. On nous pose beaucoup de questions sur les colis qu'on reçoit par la poste, les courriers. Pareil, est-ce que là, il y a un risque en allant récupérer son courrier dans sa boîte aux lettres que le facteur a touché, facteur étant peut-être malade, on ne sait pas?
Et oui, effectivement, désormais, il y a un risque que le facteur ou que la personne ait touché le colis soit malade et porteur du virus, et si elle ne sait pas bien laver les mains, il peut y en avoir. Donc prudence sur les objets. Moi, je vous conseille de les déballer, si possible, avec des gants. Ça peut paraître un peu dingue ce qu'on raconte désormais, mais je pense qu'il faut renforcer les mesures barrières pour éviter de tomber malade. Et donc,
moi, je les déballe avec les mains, désormais. Mais je me lave les mains après, quoi.
Exactement, parce que le virus ne survit pas sur la peau. Donc, si vous lavez les mains ensuite, c'est bon. Donc, oui, quand même, renforcement des mesures, d'autant plus si vous avez des personnes fragiles à la maison.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed. Alors je suis triste qu'on soit pas ensemble dans notre studio Coluche, mais comme d'habitude, mais vous l'aurez compris, vous qui nous écoutez, nous restons mobilisés, on vous informe, on vous éclaire.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous continue dans un instant, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Catherine Blanc, notre psychanalyste maison, sera avec nous en ligne. Avec elle, on va s'intéresser aux réactions du genre « même pas peur » que peuvent avoir certains adolescents qui ont l'impression qu'on les punit pour rien en ce moment avec ce confinement. Mais tout de suite, on va écouter un peu de musique sur Europe 1. C'est Maxime Le Forestier en duo avec Vanessa Paradis. Ça s'appelle « Chienne d'idées ».
Quelle imagination ça sort, la chose qui balance ses trésors. Pas de collier, pas de matricule, ça met le feu à ton vestibule. Prends sa lumière, choisis son heure, paye pas son écho au passeur. Elle passe quand même, ça vous épate, elle passe bien même à quatre pattes. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. De quel bois ça peut bien se chauffer, la chose qui se fait jamais coffrer. La petite cousine à Houdini quitte la rivière du fond de son lit. Tu vas pas fermer maintenant en plein cocktail. Qu'elle leur glisse entre les doigts, les hommes sans plus, les hommes de loi. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Sache plus jamais écrire non. Je voudrais que tu l'invites à boire, Oscar. Ne me répète pas qu'il est trop tard. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées qu'on la pique avant. Une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant.
C'était une chienne d'idées sur Europe 1, un titre signé Maxime Le Forestier en duo avec, vous l'aurez reconnu, la belle Vanessa Paradis.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour une nouvelle émission spéciale consacrée au coronavirus. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors Catherine, vous êtes sexologue mais aussi psychanalyste et avec l'épidémie de coronavirus, on se pose un tas de questions et on essaye toute la semaine d'y répondre avec vous. Alors aujourd'hui, on avait envie d'aborder la question, pardon, je perds ma voix, des adolescents. Pourquoi les ados, ils ont ce sentiment de surpuissance ?
Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont dans un temps où justement ils sont en train d'émerger de la cellule familiale, du petit enfant dépendant, et qu'ils mesurent toutes leurs capacités au travers de la capacité musculaire, à travers la capacité aussi de leur désir qui les pousse vers l'extérieur, et assez naturellement qui les pousse à aller affronter l'extérieur, le danger, un peu comme le jeune lion qui veut aller se battre contre le vieux lion qui mène la meute, comme avec une idée de toute puissance formidable, ce qui est l'instinct de survie, l'instinct de procréation.
Jimmy ?
Et justement, le fait de vouloir aller face au danger, c'est une forme un peu d'inconscience, mais qui du coup est naturelle chez l'adolescent ?
Elle est naturelle et elle est salvatrice. C'est aussi ce qui fait que nos enfants partent et osent affronter la vie demain, puisque il faut bien se dire que on n'est jamais complètement prêt. Donc il faut avoir l'idée d'une toute puissance pour aller affronter la vie professionnelle, pour aller affronter même des examens et dire qu'on va les réussir. Il faut cette inconscience là pour pouvoir gagner du territoire petit à petit en dehors du champ parental. Sauf que là, évidemment, c'est nécessairement une contrainte qui leur est imposée et qu'ils doivent respecter.
Ce confinement, vous pensez que c'est davantage difficile à l'adolescence plutôt qu'à d'autres périodes de la vie ? Les petits-enfants, par exemple, ils ont l'impression qu'on joue, finalement, ils sont très contents d'avoir papa et maman autour. À l'adolescence, on n'a pas forcément envie d'être coincé avec ses parents, je dirais.
Oui, parce que c'est un moment où justement il y a justement cette fameuse pulsion sexuelle qui a besoin de trouver un support dans les faits ou même dans les projections fantasmatiques, donc dans la vie de tous les jours à l'extérieur. Or, être confiné avec ses parents, c'est toujours la crainte inconsciente, bien sûr, que ce désir sexuel pulsionnel se porte sur les personnages avec lesquels on est et donc avec les parents qui nous entourent. Et c'est une grande anxiété. Et puis il y a aussi l'idée pour les garçons d'être justement en rivalité potentiellement avec leur père. Donc il y a vraiment un combat de coq, et idem pour les filles qui trouvent leur mère vraiment stupide, parce que chacun a évidemment une idée de l'aboutissement d'une maturité qui se veut avoir besoin d'expérience. Or là, ça se fait dans un champ où il faut qu'ils se resoumettent comme des petits-enfants.
Ouais, Jimmy ?
Les adolescents, ils aiment bien dormir, ils ont besoin de dormir, ils font la grasse matinée. Est-ce qu'en cette période où il n'y a plus cours, est-ce qu'on doit maintenir des règles où finalement on est un peu plus souple et on les laisse un peu déborder, on évite de les réveiller au pied du lit à 8h du matin ?
Alors, d'abord, il faut comprendre qu'ils dorment beaucoup parce qu'ils sont en train de grandir, donc ils fabriquent une hormone qui est à l'origine de leur difficulté à se réveiller. Mais je crois néanmoins qu'il est important de les aider à être dans un cycle de jours pour plein de raisons. D'abord, pour partager la vie de tous, la vie de la communauté, parce que s'ils se lèvent plus tard, ils se couchent plus tard, ils se mettent en décalage.
Et pour tout le monde, d'ailleurs, garder un bon rythme biologique, une bonne horloge biologique bien calée, c'est important en ce moment.
Bien sûr, et particulièrement en ce moment, puisque d'abord, les jours vont s'agrandir, on va passer à l'heure d'été, mais aussi on a besoin de fabriquer de la vitamine D. Pour ça, on a besoin d'être en contact avec la lumière, le soleil qui plus est. Donc, plus on se lève tard, plus on peine à se coucher, plus on se décale, et plus on va avoir un syndrome déprimé, dépressif, ce qui va accentuer les tensions dans le cadre de la cellule familiale.
Dernière toute petite question rapidement, Catherine, c'est aussi l'âge des premiers amours. Alors celui qui veut, ou celle, adolescent, qui veut absolument aller voir sa petite amie pour qui c'est terrible, comment on leur explique que ça va pas être possible tout de suite ? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour survivre à ça ?
Mais d'abord, je crois que c'est pas leur il y a à expliquer, mais il y a à être tyrannique le cas échéant. On a beaucoup de mal aujourd'hui, notre époque, à poser des interdits fermes. Même le gouvernement est obligé petit à petit de durcir les choses. À un moment donné, il faut bien comprendre que aimer les gens, c'est les aimer envers et contre eux-mêmes et contre le mal qu'ils pourraient se faire. Et donc, il faut qu'ils prennent conscience que la pulsion sexuelle peut attendre, que c'est le moment justement de faire en sorte qu'il y ait de l'érotisation des relations, pour se retrouver joyeusement et follement et fortement, mais qu'à un moment donné, justement, tout ça doit être maîtrisé, et découvrir que c'est maîtrisé, c'est aussi le meilleur moyen pour ne pas avoir peur plus tard de tout ce qui nous anime, et notamment de la sexualité.
Et ils s'aimaient avant le confinement, ils s'aimeront après aussi, c'est ça, il faut rester positif.
Bien sûr,
ils peuvent se voir par caméra.
S'aimeront après, et puis le copain ou la copine ne va pas aller draguer ailleurs, on ne va pas les perdre, puisque tout le monde est confiné.
C'est sûr. C'est ça. Merci beaucoup.
Tout le monde est confiné.
Pour tous ces conseils, on est tous logés à la même enseigne. Merci beaucoup.
Exactement.
On retrouve bien sûr demain. Demain, justement, n'oubliez pas, sans rendez-vous, restez mobilisés et envoyez-nous vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversés à l'Institut Pasteur. À présent, je vous laisse entre de bonnes mains, celle de Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour.